RFI 8h à Paris et Kinshasa 7h en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Jeanne Bartoli, qui nous emmène à Kinshasa, justement, en République démocratique du Congo.
Où l'armée congolaise continue de lutter contre l'offensive du groupe armé du M23. Les combats se poursuivent ce matin au nord de Goma. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit dans la journée. On fait le point dans un instant avec notre correspondante permanente. À la une aussi, Alexandre Loukachenko en quête d'un septième mandat aujourd'hui en Biélorussie, après la présidentielle contestée en 2020 et la répression de toute voix discordante. Ce scrutin a lieu dans le contexte de la guerre menée en Ukraine, guerre très concrète pour les Biélorusses, vous allez l'entendre. À suivre également des déclarations choc de Donald Trump, elles concernent la situation à Gaza, des manifestations contre l'extrême droite hier en Allemagne, à un mois des législatives anticipées, et puis la semaine de NBA délocalisée à Paris qui se termine par une correction. Les Indiana Pacers ont pris leur revanche sur les Spurs, victoire 136-98.
Une réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à Kinshasa qui annonce rappeler ses diplomates en poste à Kigali.
Les conséquences de l'offensive menée par le groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda contre les forces congolaises et leurs alliés. 13 soldats déployés au sein des forces internationales ont été tués dans les affrontements, des combats qui se poursuivent autour de Goma sur les deux fronts, ouest et nord. Paulina Zidi, vous êtes en direct avec nous de Kinshasa. Paulina, l'armée congolaise a fait le point hier en fin de journée sur la situation.
Oui, on ne laissera pas le M23 entrer à Goma, a déclaré lors d'un point presse samedi soir le porte-parole des forces armées congolaises. Le général Sylvain Ekenge assure que l'armée est déterminée à repousser l'ennemi. C'est maintenant que la guerre commence, a-t-il répondu face à l'ultimatum de 48 heures donné par le M23 au FARDC. Les affrontements, vous le disiez, ont repris ce matin sur le front nord à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma, avec des mouvements de population signalés dans les camps de déplacés dans le secteur. Hier, les combats avaient lieu plutôt à l'ouest de la capitale provinciale, vers Sake, où des forces régionales, celles de la communauté d'Afrique australe et internationale, celles de la MONUSCO, sont engagées avec des bilans officiels assez lourds. L'armée sud-africaine évoque 9 morts, l'armée malawite annonce que 3 de ses soldats ont été tués et la MONUSCO reconnaît un décès dans ses rangs. Enfin, l'armée congolaise a aussi annoncé avoir repoussé une attaque dans le sud Kivu à Niabibwe.
Paulina, discours de fermeté aussi sur le front diplomatique.
Les autorités congolaises ont annoncé hier soir le rappel de leurs diplomates en poste à Kigali et la fermeture des activités diplomatiques et consulaires du Rwanda en RDC. C'est donc la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Pendant ce temps, la ministre congolaise des Affaires étrangères est à New York, où, vous l'avez dit, doit se tenir dans quelques heures une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la situation dans l'est du pays. Nous ne pouvons plus nous contenter de déclarations, rappelle Thérèse Wagner, qui réclame une nouvelle fois des sanctions.
Paulina Zidi en direct de Kinshasa. Merci. Emmanuel Macron a lui appelé hier à la fin immédiate de l'offensive du M23 et des forces rwandaises, ainsi qu'au retrait de ces dernières du territoire congolais. C'était lors d'entretiens téléphoniques séparés avec Paul Kagame, le président rwandais, et Félix Tshisekedi, le président congolais. C'est ce que fait savoir l'Élysée.
Les Biélorusses votent depuis ce matin.
À l'issue de ce scrutin présidentiel, ne fait aucun doute, Alexandre Loukachenko va rempiler pour un septième mandat après le scrutin de 2020. Qui avait été fortement contesté dans la rue, une vague de contestation historique durement réprimée par la suite. Depuis, il y a eu la guerre en Ukraine, de lourdes sanctions internationales qui visent aujourd'hui Moscou, mais aussi Minsk, qui avait prêté en quelque sorte son territoire pour que la Russie lance son offensive, notamment dans la région de Gomel, frontalière de l'Ukraine, où les habitants constatent que les armes russes sont de plus en plus présentes. Reportage de notre envoyé spécial, Anis Al-Jabri.
Après les armes nucléaires tactiques en 2023, bientôt sans doute le tour des Oreshnik, ce nouveau missile semi-balistique russe, d'être installé sur le territoire de la Biélorussie. À la sortie du marché de Gomel, une mère de famille, dans la ligne des médias officiels, approuve.
Nous comptons bien là-dessus et espérons que la Russie sera toujours avec nous. Nous, Biélorusses, sommes un peuple pacifique, mais les relations avec l'Ukraine se sont dégradées. C'est pourquoi je suis pour laisser les Russes déployer leurs armes.
En août dernier, lors de l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk, les relations Kiev-Minsk ont connu un regain de tension. Alexandre Loukachenko avait donné l'ordre de renforcer les troupes à la frontière avec l'Ukraine. Kiev l'avait alors mis en garde. C'est précisément ce type d'épisode qui inquiète nombre de Biélorusses.
Est-ce qu'avoir des armes puissantes sur mon territoire me fait me sentir plus en sécurité? Non, parce que je sais que dans les conflits, on tire sur les zones armées. Maintenant, voilà, on a un ami, la Russie. Il nous dit, voilà ce qu'il faut faire. Quelle est l'alternative? Il n'y en a pas. On ne peut pas rester neutre. On est trop petit et sans défense.
Entre sa population qui craint de basculer dans le conflit ouvert et son puissant allié russe, le dirigeant de la Biélorussie manœuvre depuis presque 3 ans sur une ligne de crête de plus en plus étroite. Anissa El-Jabri, Gomel, RFI.
La méthode Trump de nouveau à l'œuvre ces dernières heures.
Oui, comme lors de son premier mandat, le chef de l'État américain multiplie les déclarations choc. Dernière en date, celle concernant la situation à Gaza. Donald Trump déclare devant des journalistes avoir demandé au roi de Jordanie, Abdallah II, de prendre davantage de Palestiniens. Je regarde la bande de Gaza, dit Donald Trump, telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est le bazar, c'est un vrai bazar. J'aimerais qu'ils prennent des gens. Voilà ce qu'a dit le président américain, qui appelle donc à ce que la Jordanie, mais aussi l'Égypte, accueille une partie de la population gazaoui. Déclaration avant un entretien téléphonique prévu aujourd'hui avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Et alors que l'accord de trêve entre le Hamas et Israël entre dans sa deuxième semaine aujourd'hui, au lendemain hier de la libération de 4 otages israéliennes et de quelques 200 prisonniers palestiniens, un accro néanmoins, Israël refuse de se retirer de certaines zones de la bande de Gaza en affirmant que le Hamas n'a pas libéré une civile israélienne dont le retour était attendu hier selon l'État hébreu. Notre envoyé spécial à Tel Aviv, Nicolas Falaise, s'est rendu hier sur la place des otages où avait lieu, comme tous les samedis, une manifestation.
À la tribune, il égrène les prénoms des 7 israéliennes libérées par le Hamas depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Mon cœur pleure de joie que vous soyez enfin libres, mais il pleure aussi de tristesse et d'inquiétude pour nos enfants qui sont toujours là-bas. L'homme qui prend la parole ce samedi soir à Tel Aviv s'appelle Elish Tivi. Son fils, Idan, fait partie des 90 otages toujours retenus dans la bande de Gaza. Ils sont plusieurs parents et proches d'otages à la tribune ce soir, comme chaque samedi sur cette place rebaptisée « Place des otages » depuis 15 mois. L'accord de cessez-le-feu et les premières libérations leur ont donné de l'espoir, mais ils redoutent que le processus déraille au détriment des otages restants. Alors Elie interpelle le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Netanyahou, agis comme un père, n'abandonne pas tes enfants, ramène Idan et tous les autres, tous. Nicolas Falaise, Tel Aviv, RFI.
Au Liban, à présent, l'armée israélienne toujours déployée ce matin dans le sud du pays, et ce malgré l'expiration du délai de 60 jours à l'issue duquel elle devait avoir quitté le territoire de son voisin dans le cadre d'une trêve avec le Hezbollah libanais. Selon l'agence officielle libanaise ANI, 5 personnes ont été blessées dans des tirs de l'armée israélienne sur des habitants qui tentaient d'entrer dans le village de Kfar Kela.
Des manifestations contre l'extrême droite dans une 60aine de villes d'Allemagne.
Avec dans toutes les têtes la montée de l'extrême droite à 1 mois maintenant des législatives anticipées, mais aussi la crainte des conséquences du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. À Berlin, le reportage de Salomé Enon-Cohen.
Des dizaines de milliers de personnes, surtout des familles, se sont réunies porte de Brandebourg avec de nombreuses pancartes contre l'extrême droite. Mia n'a que 16 ans, mais a un message clair à faire passer.
Liberté, égalité, fuck AfD.
La plupart des manifestants rencontrés font le parallèle avec l'actualité aux États-Unis, comme Yasmine, une berlinoise de 50 ans.
Sur ma pancarte, j'ai écrit « Make anti-fascism great again » en écho à ce qui se passe aux États-Unis et pour que nous soyons debout pour notre démocratie.
Les organisateurs avaient demandé aux participants de venir avec une lumière pour, je cite, « créer une mer de lumière contre l'extrême droite ». ou comme le dit Katia,
l'espoir dans l'obscurité.
Un symbole qu'explique aussi Luisa Neubauer, figure de proue du mouvement Fridays for Future, qui a co-organisé la manifestation berlinoise.
Il y a bien un danger géopolitique, mais c'est surtout un énorme spectacle que Trump fait voir au monde. Et le meilleur moyen de démystifier un spectacle, c'est d'arrêter d'applaudir et d'allumer la lumière.
Toutes ces manifestations à travers l'Allemagne se tenaient le même jour qu'un grand meeting de l'AfD dans la ville de Halle, où le milliardaire Elon Musk a d'ailleurs fait une déclaration en visioconférence, de quoi creuser encore plus les fronts de cette campagne allemande, décidément vraiment pas comme les autres. Salomé Enoncoin, Berlin, RFI.
En France, les indépendantistes des Outre-mer et de Corse, désormais réunis au sein d'une même entité. Et
le FID, le Front International de Décolonisation, naît vendredi à Nouméa et il fait déjà parler de lui sur fond d'accusations d'ingérence de l'Azerbaïdjan dans les affaires françaises. Explication à Nouméa avec Charlotte Manvi.
Objectif de ce Front international de décolonisation, obtenir le statut d'observateur au sein du mouvement des non-alignés et l'inscription de la Martinique et de la Guadeloupe sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU. Mais à peine né, le FID est déjà au cœur d'une polémique après la diffusion lors du congrès d'un message de soutien de l'Azerbaïdjan que Paris accuse de vouloir déstabiliser les outre-mer français. Alors que la Nouvelle-Calédonie connaît un regain de tension, la vidéo, largement relayée sur les réseaux sociaux par l'Azerbaïdjan, a provoqué un véritable tollé. Du député calédonien Nicolas Metzdorf qui demande la convocation de l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en France au ministre des Outre-mer Manuel Valls qui dénonce une ingérence inacceptable. Le FID est indépendant et croire que nous avons besoin d'une puissance étrangère pour nous révolter contre l'impérialisme est pour moi une marque de mépris et de racisme, répond pour sa part Francis Carroll, le président du parti de Libération Martiniquais, membre du FID. Charlotte Manvi, Nouméa, RFI.
Enfin, les sports et la fin d'une semaine américaine de basket hier soir à Paris. Second match délocalisé par la NBA, largement battu jeudi. Les Indiana Pacers ont pris leur revanche sur les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Victoire écrasante, 136 à 98. Victor Missistrano.
Des spectateurs originaires de 53 pays, c'est un record pour la NBA. Erin se prend en photo avec sa famille devant le logo de la Ligue américaine qu'elle connaît bien, puisqu'elle vit à San Antonio.
On ne rate aucun match à domicile, mais nous tenions à supporter nos Spurs ici à Paris et voir Wemby jouer dans son pays. On est là pour la semaine, donc l'expérience consiste aussi à découvrir la France.
Lui est venu de Finlande en compagnie de son épouse. Caro a dépensé 400 euros par ticket.
Ça fait 30 ans que je suis la NBA, c'est mon loisir principal. Je n'ai pas assisté à un match depuis 15 ans. L'année dernière, j'ai complètement échoué, mais cette année, j'ai réussi à acheter un billet et j'en suis très heureux. Je m'attends à un grand spectacle.
Assurer le show, c'est le travail de Vincent Royer, le maître de cérémonie de la soirée, habituellement speaker de l'équipe de France.
On est samedi soir, les répétitions ont commencé lundi. Ça change tout, la NBA, c'est un autre monde. C'est rigueur, professionnalisme et un petit peu de fun quand même.
C'est quoi pour vous une bonne soirée, un bon match?
Une soirée réussie, c'est quand le match a été chaud jusqu'à la fin, que le public nous ait suivi, qu'à la fin le public reparte avec le sourire et en se disant quand est-ce que la NBA reviendra en France.
Ce sera peut-être pour l'an prochain. En revanche, pour le scénario du match, c'est donc raté. Lourde défaite des Spurs de Victor Wembanyama. Le Français repart aux États-Unis avec une grosse valise, mais les batteries rechargées.
C'était Victor Missistrano, le nôtre du service des sports.
Merci Jeanne Bartoli. À tout à l'heure. RFI Matin, troisième et dernière heure, à suivre un nouveau point sur l'info africaine dans moins de 20 minutes. Juste après, ce sera le journal des sports et les buteurs africains de la première ligue britannique. C'est du foot à la une. Coup de projecteur sur l'atout ivoirien de Manchester United qui joue contre Fulham aujourd'hui. Amad Diallo, suivi de près à Adjamé, Château d'Eau, son quartier d'origine à Abidjan, où Youen Gourlet nous emmène tout à l'heure. Au sommaire d'ici là, notamment l'actualité politique en France et la division de la gauche qui met en point d'interrogation son avenir à la mairie de Paris à un peu plus d'un an des élections municipales. Et puis notre reportage culture est pour la première fois une exposition consacrée à la mode au musée du Louvre à Paris. Mais tout de suite la presse. Le tour des hebdomadaires et des journaux du dimanche. Avec vous, Catherine Potet, à la une, l'Europe face à l'ouragan Trump.
L'Europe aurait-elle déjà renoncé face à l'ouragan Trump? La tribune dimanche, en tout cas, nous fait part de ses doutes. Les Européens sont pétrifiés après cette rude semaine marquée par le retour du bulldozer Trump, observe le journal. Le langage fleuri et agressif du successeur de Joe Biden, qui a fait de l'esbrouf et du coup de menton les fondements de sa politique, aurait dû déclencher une mobilisation tous azimuts sur le vieux continent. Raté, poursuit la tribune dimanche, la charge attendue du nouveau maître de la Maison-Blanche a laissé les Européens sans voix, ou presque. Et l'avenir n'est pas engageant, observe le journal qui enfonce le clou. L'Europe, si elle verse dans le défaitisme et le fatalisme, risque de perdre les valeurs qui lui ont permis de connaître 80 ans de paix et de prospérité.
80 ans, en effet, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Demain, lundi 27 janvier, marquera d'ailleurs le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz.
Et les rescapés des camps de la mort sont rares. Seuls 12 d'entre eux sont encore en vie en France, nous dit le Nouvel Obs, qui a rencontré Esther Dzixeno, 97 ans, et Ginette Colinka, bientôt centenaire. Toutes deux continuent à transmettre la mémoire de la Shoah. À Birkenau, précise l'hebdomadaire, Esther avait fait la promesse à sa grande sœur Fanny de témoigner. Elle était à l'infirmerie, crachait le sang. Elle m'a prise dans ses bras et elle m'a dit « C'est fini pour moi, mais toi, tu vas tenir et raconter pour qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. » Mais pour Esther, comme pour Ginette, il a fallu du temps avant de pouvoir témoigner. Après la guerre, raconte Esther, on ne passait pas inaperçu avec nos têtes rasées et nos silhouettes cadavériques. J'ai commencé à tout raconter, mais les gens pensaient que j'inventais. Longtemps, ça n'a pas été possible de parler. Ginette, elle, a tout d'abord voulu tout effacer, poursuit le Nouvel Obs. Elle ne dira rien, ni à son mari, ni à son fils, jusqu'au début des années 2000 et l'appel de la fondation de Steven Spielberg qui récoltait des témoignages pour le mémorial Yad Vashem en Israël. Aujourd'hui, malgré leur grand âge, Esther Dzixeno et Ginette Colinka continuent de témoigner, de transmettre donc la mémoire de la Shoah, particulièrement dans les écoles.
Et notez que demain, RFI vous propose une journée spéciale avec de nombreux rendez-vous consacrés à ce 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Ginette Colinka sera l'invitée d'Arnaud Pontus à 7h15, heure de Paris. D'abord, Catherine, revenons à la presse hebdomadaire qui fait aussi ses gros titres sur les relations houleuses entre la France et l'Algérie.
C'est tout d'abord Marianne qui s'exclame en une. Algérie, le chantage, ça suffit. Derrière la haine de la France, un régime aux abois, ajoute l'hebdomadaire, qui revient sur les événements de ces derniers mois et particulièrement sur l'arrestation en Algérie de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. La fuite en avant radicale contre la France du président algérien Abdelmadjid Tebboune, accuse Marianne, ne vise qu'à susciter des réflexes nationalistes pour soutenir sa personne. L'hebdomadaire a interrogé Chaouki Benzera, un opposant algérien. À ses yeux, le régime algérien, devenu très fébrile, a maintenant une approche belliqueuse des relations internationales teinté de complotisme. Le gouvernement de Tebboune, dit-il, utilise ses crises, notamment avec la France, ainsi que l'histoire coloniale, pour détourner le regard de la population algérienne des problèmes que traverse le régime. Au lieu de construire un vrai état de droit avec des institutions dignes de ce nom, ajoute l'opposant, le régime passe son temps à dénoncer un complot macronito-sioniste contre l'Algérie.
Et les relations entre la France et l'Algérie, il en est aussi question dans l'Express, Catherine.
C'est à la une de l'hebdomadaire la photo du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau avec cette phrase « Rien ne donne à l'Algérie le droit d'offenser la France ». Une mise au point signée du ministre lui-même qui est longuement interrogé par l'hebdomadaire. Il revient notamment sur l'expulsion du territoire français de l'influenceur algérien Doualem pour des propos haineux à l'égard d'un opposant algérien et que l'Algérie a refusé de reprendre sur son territoire, le renvoyant en France. Bruno Retailleau accuse l'Algérie de ne pas avoir respecté le droit international. Quant à Boualem Sansal, il a été arrêté injustement, poursuit le ministre de l'Intérieur. Il est détenu scandaleusement par le régime algérien. C'est inadmissible. Bruno Retailleau qui hausse le ton et plaide pour un meilleur contrôle des entrées sur le territoire français. Nous sommes trop généreux, dit-il, révélant par ailleurs qu'il n'a plus aucun lien institutionnel avec l'Algérie. Bruno Retailleau qui appelle toutefois à normaliser et dépassionner la relation diplomatique de la France avec l'Algérie.
Merci Catherine Potet, à la semaine prochaine.
RFI à Paris, 89 FM.
L'actualité politique en France, comme chaque dimanche, et cette semaine à un peu plus d'un an des élections municipales, les appétits qui s'aiguisent autour de la succession d'Anne Hidalgo à Paris. Si la ministre de la Culture, Rachida Dati, paraît en mesure de rassembler la droite et le centre dans la capitale, tout est flou du côté de la gauche. Bonjour Aurélien de Vernoy.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
En cause, les rivalités entre les représentants du nouveau Front Populaire, mais aussi de la concurrence interne chez les écologistes et les socialistes.
Avec un nouveau prétendant de poids depuis cette semaine, Yannick Jadot, l'ancien candidat écologiste à la présidentielle, a annoncé dans les colonnes du Parisien briguer ce mandat qu'il juge extraordinaire. Mais attention, encore faut-il passer l'obstacle de la désignation interne à son parti. Or, quatre autres candidates et candidats se sont déjà déclarés, dont deux adjoints à la mairie et la patronne du groupe écologiste au Conseil de Paris. Des personnalités qui ont des bilans à défendre, juge un haut dirigeant écologiste, contrairement à Yannick Jadot. Celui-ci défend toutefois son initiative en mettant en avant son expérience au sein du Parlement européen ou du Sénat, ainsi que ses 40 années de résidence à Paris. Pas sûr que cela et que sa notoriété suffise, juge un cadre écologiste parisien, le courant que représente Yannick Jadot au sein du parti étant très minoritaire chez les militants de la capitale.
Mais Yannick Jadot ne s'est sans doute pas lancé dans la bataille sans avoir mesuré l'obstacle.
C'est d'ailleurs l'analyse qui domine au sein de l'équipe d'Emmanuel Grégoire, l'un des deux candidats à l'investiture du Parti Socialiste cette fois. Il a forcément obtenu des garanties, estime une conseillère, qui hésite toutefois sur la provenance de ce soutien. Yannick Jadot a apposé sa signature parmi la première liste des soutiens à Marine Tondelier qui veut se faire réélire à la tête des écologistes, sans doute un indice, mais des rumeurs persistantes font état de contacts avancés avec Anne Hidalgo.
La maire de Paris a pourtant désigné son dauphin, le sénateur Rémi Féraud.
En effet, mais la greffe a du mal à prendre et son rival Emmanuel Grégoire, désormais honni par Anne Hidalgo, s'attend à remporter facilement la primaire interne au PS. Yannick Jadot pourrait donc devenir un recours avec l'avantage de pouvoir rassembler écologistes et socialistes dès le premier tour de l'élection, ce qui éviterait à la gauche de voir un écart trop important se creuser avec la liste d'Union de la droite et du centre que devrait donc mener Rachida Dati. Reste désormais à convaincre les écologistes parisiens et tordre le bras aux socialistes pro-Grégoire, sans compter le fait qu'il faudra aussi surveiller les insoumis très ambitieux à Paris. Or, Yannick Jadot n'a jamais caché son hostilité à tout rapprochement avec le mouvement de la gauche radicale.
Aurélien de Vernoy, merci beaucoup.
RFI Matin.
Et au menu des chemins d'écriture ce dimanche, Chimère Chinodia, romancier, nouvelliste du Zimbabwe. Avec une dizaine de titres à son actif, Chinodia s'est imposé comme un auteur majeur des lettres africaines. Il a reçu de nombreux prix littéraires et son recueil de nouvelles « Peut-on se parler ?» et d'autres histoires et son premier ouvrage à paraître en français. Bonjour Tirtan Karchanda.
Bonjour Julien Coquelrem, bonjour à tous et à toutes.
Pourquoi faut-il lire « Peut-on se parler ?»
Écoutez, j'ai envie de répondre pour le bonheur de lecture tout simplement. Voyez-vous, Chima Chinodia est un conteur né, comme en témoignent ses romans parus depuis les années 1980. Son tout premier roman, « Dew in the Morning », en français « La rosée du matin », qu'il a écrit à l'âge de 17 ans, ou encore son opus « Harvest of Thorns », « La récolte des épines », portant sur la guerre d'indépendance au Zimbabwe, l'ont imposé comme une voie majeure. Ces récits racontent avec un souci d'urgence la fragilité du quotidien, mêlant avec brio, émotion et événement, le réel et le surréel. Cette voie perspicace, on la retrouve dans les nouvelles qui viennent de paraître, qui sont à la fois des témoignages et des analyses psychologiques et sociales. En voici une illustration avec un extrait lu par la traductrice française de Chimère Chinodia, Annick Garache Gouvernel. Lecture.
Au premier abord, il semblait n'être qu'un de ces insupportables frimeurs qu'on rencontre autour d'un braille. Ceux qui connaissent toutes les histoires et anecdotes qui courent. Ils se font payer des verres, regardent les partenaires des autres et se brûlent les doigts sur le port grillé des autres. Celui-ci, 25 ans environ, petit, mince, était plutôt sympathique, audacieux, peu soucieux de son apparence, avec, malgré tout, son téléphone portable accroché à son jean.
Une écriture visuelle, mais Tirtankar, qu'est-ce que c'est qu'un braille, l'endroit où est campée la nouvelle ?
Braille, c'est un terme en afrikaans désignant un barbecue collectif populaire. Le passage que nous voulons écouter est extrait de la nouvelle intitulée « Cascade ». L'histoire que raconte cette nouvelle est représentative de l'atmosphère qui règne dans ces pages entre réalisme cru et le basculement dans le surréel, voire le fantastique. Ici, l'histoire se déroule dans un township autour d'un braille où un jeune homme mi-ivre, mi-fanfaron se vante de ses conquêtes féminines. Pour la suite, parole à la traductrice Annick Garache-Gouvernel.
Le narrateur, il est autour d'un barbecue, là. Il sait pas quoi faire, il s'ennuie. Et il se rapproche de tout un petit groupe qui écoute quelqu'un qui raconte des histoires. L'histoire, c'est quand il a pris des filles dans sa voiture. Il veut passer un bon moment avec elles. Ils boivent de la bière, ils prennent des drogues et tout ça. Puis elles lui disent, allez, on va aller à cet endroit-là qu'on connaît. Et ils y vont, ils se baignent. Et puis, d'un seul coup, une des deux filles se transforme presque en sorcière. Il se passe quelque chose d'incroyable qui fait peur. C'est le monde de l'étrange, là, ou du fantastique, d'un seul coup.
Tirtankar, à part ce topos du fantastique, ce monde de l'étrange, quels sont les autres thèmes abordés dans ce recueil ?
Les 11 nouvelles que comporte ce recueil offrent un panorama des préoccupations de l'auteur qui vont de la guerre à l'enfance cruelle en passant par les injustices et inégalités sociales, incarnées par des personnages attachants qui parlent le langage simple de la terre et de la vie, comme l'écrit la traductrice dans la postface du recueil. C'est dans la bibliothèque paternelle, composée de 3 étages de livres, que le jeune Chimer a lu ses premiers classiques. Ils lui ont inculqué le goût de l'écriture et cette conviction qu'il a fait depuis sienne, selon les mots de l'auteur en personne, la mission principale de l'art est d'élever et de vivifier l'esprit.
Peut-on se parler et autres histoires ? Le recueil de nouvelles de Chimer Chinodia dans Chemin d'écriture. Merci Tirtankar Chanda. Et bientôt 7h30 en temps universel. Avant le journal, notre reportage culture du jour et une première dans l'histoire du plus connu des musées parisiens. Le musée du Louvre accueille pour la première fois une exposition sur la mode. Objets d'art, objets de mode, Marie, haute couture et chef-d'œuvre d'art classique. Et c'est un événement que José Marinho nous emmène visiter.
Cet inédit, le Louvre déroule son tapis rouge à la mode. Le parcours se déploie sur 9000 mètres carrés avec une centaine de robes mythiques et d'accessoires marquants de grands créateurs. La haute couture entre au célèbre musée et on le doit à Olivier Gabé, commissaire de cette exposition.
On s'est dit que pour la première fois, on allait interroger le rapport de la mode avec les arts décoratifs, c'est-à-dire les tapisseries, le mobilier, l'orfèvrerie, le verre, la céramique, de Byzance jusqu'au Second Empire, et de voir comment tous ces créateurs s'inscrivent dans cette histoire de l'art.
Les vêtements montrés ont été choisis entre les années 1960 et 2025. Objectif, les mettre en dialogue avec les œuvres du Louvre. C'est par exemple un ensemble Chanel de 2019, brodé de plumes d'autruche, inspiré par une commode 18e, ou encore l'exubérance du 19e siècle qui éclate avec les robes rouges flamboyantes du Britannique John Galliano. Et parmi tous ces trésors, ceux de la salle des armures sont les plus impressionnants.
On présente dans cette salle Paco Rabanne, le grand créateur d'origine basque. C'est un peu le père de ce retour à l'armure. Et on a une tunique incroyable de 1967 portée par Brigitte Bardot. Et autour d'elle, il y a des réinterprétations chez des créateurs comme Karl Lagerfeld pour Chanel va faire des gants en métal. Christian Louboutin va faire des sacs à main qui se portent à l'épaule avec une épaulière qui est comme une épaulière d'armure. Il faut avoir beaucoup l'œil pour repérer les choses. Bienvenue au musée du Louvre, le royaume de l'œil.
La jeune génération de créateurs est aussi présente. Retenez bien son nom. Il s'appelle Duro Olu. Il est nigérian et ses pièces intemporelles ont marqué le commissaire de cette exposition, Olivier Gabé.
Quand on regarde ce qu'il fait, il y a des broderies, il y a un vocabulaire qui est un vocabulaire du 18e siècle français. Et ce qui c'est vraiment la force de ces artistes, c'est de pouvoir mélanger un champ de la création. Le fait de faire une exposition sur la mode, c'est pas de faire venir plus de visiteurs. Le Louvre est le musée le plus visité au monde. C'est de changer l'expérience du musée grâce à la mode. Parce que la mode, qu'on le veuille ou non, elle est plus accessible, notamment pour un public plus jeune. Elle est universelle et ça, ça lui donne la possibilité d'être un pont entre le musée et les visiteurs.
L'apothéose glamour est partout dans les galeries du Louvre, sublimée par des silhouettes perchées sur des podiums en miroir. La scénographie est éblouissante et le voyage à travers les époques magique.
Objet d'art, objet de mode, une exposition, événement à voir jusqu'au 21 juillet si vous passez par Paris et par le musée du Louvre. Et le journal dans moins d'une minute sur RFI. À tout de suite.
RFI à Goma, 98 FM.
La Foire internationale d'art contemporain africain, 154 Contemporary African Art Fair, revient à Marrakech du 30 janvier au 2 février. À découvrir les créations de plus de 90 artistes issus du continent africain et de ses diasporas. Plus d'informations sur 1-54.com. En partenariat avec RFI.